Première partie. Chapitre 1. J'en suis à ma 5e année de détention. Condamné à perpétuité pour avoir assassiné mon propre enfant. Attention. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien fait de tel. Mon fils Matthew avait 3 ans au moment de sa mort brutale. Il était toute ma vie. Puis du jour au lendemain, il n'était plus. Et moi, j'ai pris perpète. C'était de toute façon une sentence à perpétuité, de perdre mon enfant, même si je n'avais pas été arrêté, jugé et condamné. Vous vous demandez comment je peux clamer mon innocence? Mais parce que je suis innocent. L'ai-je crié haut et fort? Me suis-je battu pour le prouver? Pas vraiment. Ça m'était égal qu'on me juge coupable. Je sais que ça paraît fou. Seulement voilà. Mon fils est mort. Mort. Disparu à jamais. Et la décision du jury n'y aurait rien changé. Coupable ou non, je n'ai pas su le protéger. J'ai failli à mon rôle de père. Même si je n'ai pas manié l'arme qui a transformé son visage adorable en une bouillie ensanglantée lors de cette nuit de cauchemar, je ne l'ai pas arrêté non plus. Je n'ai pas fait mon boulot de père. Coupable ou non du meurtre en lui-même, je suis fautif. Et c'est à moi de payer. J'ai à peine réagi à la lecture du verdict. On en a déduit que je devais être un sociopathe, un psychopathe. Bref, quelqu'un de mentalement dérangé. Dépourvu de sentiments, selon les médias. Dénué d'empathie, incapable d'éprouver du remords. J'avais le regard vide. Je collais on ne peut mieux au stéréotype de l'assassin. Rien de tout ça n'était vrai. Mais à quoi bon protester? C'est moi qui ai découvert mon fils Matthew dans son pyjama de super-héros Marvel cette nuit-là. Le choc a été dévastateur. Je n'ai pas réussi à me relever depuis. Et je ne pense pas que j'y arriverai un jour. La perpétuité, au sens métaphorique. Ce n'est pas l'histoire d'un homme accusé à tort, car au final, ça ne changerait rien. Quitter ce trou à rats ne mènerait pas à la rédemption. Être libre ne me rendrait pas mon fils. Du moins, c'est ce que je crois. Jusqu'au moment où, le matin, un type un peu bizarre qu'on surnomme Boucli vient m'annoncer « T'as de la visite ». Persuadé qu'il parle à quelqu'un d'autre, je ne réagis pas. En 5 ans de détention, je n'ai pas eu un seul visiteur. La première année, mon père a essayé de venir me voir, ainsi que ma tante Sophie et une poignée de proches, qui me croyaient innocent ou en tout cas pas vraiment coupable. J'ai refusé de les recevoir. Cheryl, la mère de Matthew, aujourd'hui mon ex-femme, ce qui n'a rien d'étonnant, a bien tenté sa chance sans conviction. Mais je n'ai pas voulu la voir non plus. La chose était claire, pas de visite. Je ne voulais pas pleurer sur mon sort, ni qu'on me prenne en pitié. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de ces visites. Une année est passée, puis 2. Après quoi, tout le monde a abandonné l'idée de venir me voir. Hormis Adam, qui a peut-être insisté pour faire un saut dans le Maine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Or voici que, pour la première fois, quelqu'un vient me rendre visite au pénitencier de Briggs. « Allez, Burroughs !» aboie Boucli. « On y va ! T'as de la visite !» J'esquisse une moue. « Qui est-ce ? Tu m'as pris pour ta secrétaire ? T'as cru que je m'occupais de tes rendez-vous mondains ?» Très drôle. « Quoi ? Les rendez-vous mondains ? Tu te fiches de moi ?»« Ça m'intéresse pas, les visites, » lui dis-je. « Faites-le partir. » Boucli pousse un soupir. Burroughs.
Quoi?
Bouge tes fesses. Tu n'as pas rempli le formulaire.
Quel formulaire?
Il y a un papier à remplir si tu veux pas de visite. Je pensais que les gens devaient être inscrits sur ma liste d'invités.
Liste d'invités?
Répète Boucli en secouant la tête. Tu te crois à l'hôtel ici?
Il y a des listes d'invités dans les hôtels?
En tout cas, j'ai signé quelque chose pour notifier que je voulais pas de visite.
à ton arrivée ici.
C'est ça. Bouclier soupire de plus belle.
Il faut le renouveler tous les ans.
Quoi?
As-tu rempli un formulaire cette année pour notifier que tu voulais pas de visite?
Non. Il écarte les bras.
Et voilà! Allez, debout!
Vous ne pouvez pas renvoyer cette personne?
Non, Burroughs, je peux pas. Et je vais te dire pourquoi. Ça me demanderait plus de boulot que de te traîner au parloir. Si je fais ça, il faudra que j'explique pourquoi t'es pas là. L'autre va forcément poser des questions, je devrais sûrement remplir des papiers moi-même, il y aura plein d'allers-retours, on n'a pas besoin de ça, ni toi, ni moi. Alors écoute-moi, tu vas venir. T'es pas obligé de parler si t'as pas envie. Et ensuite, tu rempliras le formulaire pour nous éviter de recommencer le même cirque. On est d'accord?
Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que toute rébellion, non seulement serait inutile, mais risquerait de se retourner contre moi. Et puis, à vrai dire, cette visite m'intrigue. On est d'accord, dis-je.
Cool. Allons-y.
Je connais la chanson, évidemment. Les menottes, puis une chaîne en guise de ceinture pour pouvoir attacher mes mains à ma taille. Ils ne me passent pas les chaînes aux chevilles, surtout parce qu'elles sont dures à mettre et à retirer. Ça fait une trotte depuis le QHS, quartier de haute sécurité, pour ceux qui le savent pas, jusqu'au parloir. Nous sommes 18 détenus à y résider actuellement. 7 bourreaux d'enfants, 4 violeurs, 2 tueurs en série cannibales, 2 tueurs en série normaux, 2 tueurs de flics, et bien sûr, un fou infanticide. Votre serviteur. Une belle brochette, non? Bouclier me fusille du regard, ce qui me surprend. La plupart des gardiens sont des flics ratés et ou des gros bras qui nous considèrent, nous autres détenus, avec une apathie déconcertante. Je me retiens toutefois de lui demander ce qui ne va pas. Mes jambes flageolent un peu. Je me sens bizarrement nerveux. Pour tout vous avouer, je suis chez moi ici. L'endroit est horrible, pire que tout ce que vous imaginez. Mais je me suis habitué à ce genre d'horreur. Ce visiteur, qui qu'il soit après tout ce temps, vient chambouler ma routine bien établie. Et ça ne m'enchante pas beaucoup. Je revois soudain le sang de cette nuit-là. Je pense beaucoup au sang. Il m'arrive d'en rêver. Au début, c'était toutes les nuits. Mais actuellement, c'est, disons, une fois par semaine. Le temps s'écoule différemment en prison. Il s'arrête, repart, bégaye, zigzague. Je me souviens d'un réveil vaseux dans le lit conjugal. Je n'ai pas regardé l'heure, mais pour ceux que ça intéresse, il était 4 heures du matin. La maison était silencieuse. Et pourtant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ou c'est peut-être ce que je me raconte maintenant. Notre mémoire aime bien inventer des histoires. Je n'ai pas bondi hors du lit, non. Je suis resté plusieurs minutes dans cette zone crépusculaire, entre la veille et le sommeil, le temps d'émerger. J'ai tout de même fini par me lever pour aller vers la chambre de Massio. C'est là que j'ai vu le sang. Il était plus rouge que je ne l'aurais cru. D'un rouge criard et moqueur, comme le maquillage d'un clown. Paniqué, j'ai appelé Massio. Je me suis précipité maladroitement vers sa chambre, me cognant au chambranle de la porte. J'ai appelé de nouveau. Pas de réponse. Je me suis rué dans la pièce où je suis tombé sur quelque chose de méconnaissable. Il paraît que je me suis mis à hurler. C'est ainsi que la police m'a trouvé. En train de hurler. Les hurlements étaient comme des éclats de verre qui me transperçaient de part en part. Je pense que j'ai dû m'arrêter à un moment. Mes cordes vocales ont probablement lâché, allez savoir. Mais l'écho de ces hurlements ne m'a jamais quitté. Ces éclats continuent à me taillader, me déchirer les chairs.